C'est pas très surprenant que la candidate Fujimori soit en tête. Elle a fait le plein de ses voix, 38%. C'est le même score qu'il y a 5 ans. Il y a toujours du fujimorisme dans l'air qui est bien souvent alimenté par les classes populaires habituées au populisme, volontiers victimes du paternalisme. Mais il y a 25% pour M. Kuczynski, il y a 18% pour Mme Mendoza. Ce score, il est quand même marqué par ceux qui sont derrière. Alors, on découvre dans ce pays qu'il y a une classe moyenne qui est en train de surgir, qui est le résultat d'une croissance. Il y a eu pendant pratiquement 10 ans une croissance entre 5 et 8%, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est surgir une classe moyenne un petit peu plus exigeante en termes d'élections, en termes de représentation. Il semblerait que les groupes politiques qui ont vraiment un projet avec une rénovation de la société, où on remet un peu plus en cause les mécanismes de la société, prennent plus de corps. L'élection reflète tout à fait cela.
Votre paroisse est située dans un quartier plutôt pauvre. Est-ce que la fin de la pauvreté est encore un enjeu majeur pour le Pérou ?
Tout à fait. Bon, ma paroisse fait environ 50 000 habitants. C'est dans les quartiers est de Lima. C'est très pauvre. Il y a quand même un foyer sur 4 dans ma paroisse qui n'a pas d'eau et qui n'a pas de service de base. Et une désertion scolaire qui est de près de 15 à 17%. C'est énorme. Alors, cette population, elle n'est pas encore politiquement organisée, si on peut dire. Elle se satisfait d'un populisme un peu ringard, quoi. Hein? Alors, évidemment, c'est très important pour eux. Si on leur donne quelque chose, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas, donc ils acquièrent quelque chose. Ils n'ont pas forcément encore l'idée qu'un projet de société, ça se construit, quoi. C'est tout à fait vrai que dans une paroisse comme la mienne, beaucoup de gens choisissent le candidat qui promet un petit peu des choses immédiates, quoi. Hein. Le fujimorisme, c'est un petit peu ça, quoi. Mais je sens quand même, dans mon quartier, je sens quand même que même les gens qui ont voté plutôt Fujimori, ils commencent à se poser un peu des questions. Et surtout, avec les thèmes, la protection de la création, ce qu'on appelle ici l'extraction aussi, c'est-à-dire c'est un pays minier, alors on s'aperçoit qu'on ne peut quand même pas sortir toutes les richesses du sous-sol en 3 générations, quoi. Et bien, ça commence à poser des questions au secteur populaire où on n'avait jamais beaucoup travaillé ces questions-là quand même.
Et est-ce que l'arrivée de Laudato Si a changé quelque chose pour vous ?
Nous, les prêtres, la catéchèse, les discours des évêques, etc., qui va tout à fait dans le sens du pape, ça fournit une transformation quand même. Hein. Les gens ont des exigences nouvelles, même si il y a moins de pratiques religieuses, il y a beaucoup de sectes, etc. Très curieusement, le message du pape, il est quand même écouté, il est aimé par des gens qui n'appartiennent pas à l'Église catholique. Ça, c'est quand même une façon extraordinaire de dire que la libération que nous offre l'Évangile vient pour tout le monde. Alors, notre travail, il est de fédérer un peu tout cela et de faire qu'il y ait une communauté qui surgisse et qui puisse donner les bons témoignages, quoi.
Vous parliez d'une population qui, du coup, si elle n'était pas mature politiquement, s'organisait elle-même énormément pour fournir des services de base aux uns et aux autres dans le quartier.
Alors, tout à fait. Le côté dégourdi, hein, que les gens s'organisent, surtout quand il y a des coûts, enfin, quand il y a une augmentation des moyens de transport, quand il y a une augmentation des produits de base, les gens ont des ressources pour être solidaires qui sont extraordinaires. Alors là, ça marche très, très bien. C'est quand les comédors, c'est-à-dire les cantines populaires, quoi. Et les cantines resurgissent à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, que les prix ont beaucoup augmenté. Alors, mais quand même, on est en droit d'exiger une meilleure éducation, une santé pour tous, un emploi de qualité. Alors là, il n'y a pas encore dans les secteurs plus démunis cette réaction, quoi. On se contenterait de quelque chose de passager, quoi.
Et pour revenir à cette classe moyenne émergente, quelles sont ses priorités ou ses exigences ?
Alors, la classe moyenne émergente, elle est très attentive aux ressources, à la fois naturelles et humaines. Je suis très étonné que des gens qui ont des budgets très serrés dépensent beaucoup d'argent pour l'école de leurs enfants, jusqu'à 20-25% de leur salaire. Alors cette classe moyenne, elle est exigeante aussi en termes du milieu ambiant. Alors il y a perpétuellement des accidents écologiques. Alors ça, les gens rejettent profondément tout ce qui peut abîmer la nature. Et aussi, l'autre aspect de la classe moyenne, qui est à mon avis plus original que d'autres classes moyennes en Amérique latine, c'est que cette classe moyenne ne regarde pas forcément au-dessus, en haut, pour monter plus. Ils n'oublient surtout pas leurs origines, leurs familles, leurs régions. Et c'est cette classe moyenne aussi qui maintient le folklore, la musique, l'artisanat traditionnel du Pérou. Toute l'histoire de ce peuple, hein, elle est maintenue parce qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent, qui organisent les fêtes pour maintenir à la fois le folklore, les langues un peu anciennes, les racines humaines de ce peuple péruvien. Ça, c'est quand même, cette classe moyenne, elle est championne dans ce domaine-là.
La défense d'une culture, l'émergence aussi d'une conscience politique, est-ce que les partis vont maintenir un statu quo ou sont quand même attentifs à ces exigences nouvelles?
Là, il faut quand même être assez prudent. Parce que, justement, il y a beaucoup moins de partis politiques. Les partis un peu traditionnels ont été, avec ces élections, complètement lavés. Il ne reste plus. Il y avait des partis qui avaient 50 ou 70 ans d'existence, avec une vie de parti. Alors là, ils ont fait moins de 5%. Et ce qui a triomphé, c'est beaucoup plus des alliances un peu plus spontanées, qui n'ont pas forcément une grande doctrine, mais qui cherche à répondre assez vite aux besoins de la société. Hein, la société tourne très vite, les partis politiques sont un peu lents. Alors les gens n'attendent pas que les partis traditionnels qui offraient autrefois des garanties donnent une réponse, et ils vont plutôt donner leur confiance à des gens qui ont une réponse sur tel ou tel domaine de l'existence. Voilà, donc le nouveau congrès de la République va répondre à quelques questions, mais il aura beaucoup, beaucoup de mal à faire une réforme profonde de l'État, etc. Là, pratiquement tous les candidats, pas tous, mais presque, il y en a moins 8 sur les 10, ne proposaient aucune réforme de fond, quoi. Hein, ils proposent des choses un petit peu de circonstances, quoi, importantes pour la population. Mais on n'est pas encore entré dans l'idée qu'il y a peut-être à réformer l'État, qui est le modèle n'est pas forcément le modèle américain, mais le modèle européen. Il y a peut-être des choses à trouver, surtout que le Pérou est un pays très autonome, comme je disais, dans toutes ses ressources. Ce pays a toutes les ressources que l'on veut, beaucoup plus que d'autres pays, quoi. Alors, il aurait aussi les moyens de se payer le luxe un petit peu d'avoir un modèle de société un petit peu différent. Hein. Le président qui quitte ses fonctions, le président Humala, là, eh bien, il y a 5 ans, dans sa campagne électorale, il avait tout un projet de réforme de l'État. C'est probablement ça, d'ailleurs, qui avait attiré beaucoup de gens sur sa candidature. Il ne l'a pas vraiment fait, s'il avait promis, ce qui n'est rien d'extraordinaire ici. Mais résultat, dans ces élections ici, pratiquement personne ne propose une réforme en profondeur, quoi. Et ça, c'est plus inquiétant quand même.